Vous écoutez RMC. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Elle est GG ce matin sur RMC. Faut-il obliger les maires à afficher le portrait d'Emmanuel Macron? Le maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a confirmé avoir décroché de son bureau le portrait officiel du président de la République. Le préfet de Seine-Saint-Denis l'a rappelé à l'ordre. Et pour Charles Consigny, l'avocat des GG, retirer le portrait d'Emmanuel Macron est inacceptable.
Tant qu'il y est, il n'a qu'à proclamer l'indépendance de Saint-Denis.
Oui.
Je veux dire, il n'a pas à s'arrêter en si bon chemin s'il est dans une démarche sécessionniste, qu'il aille au bout de son idée. Il a quand même un melon invraisemblable. À peine élu, il voulait virer tous les agents qui ne le soutenaient pas. Ensuite, deux semaines après, il se voyait président de la République. Maintenant, il refuse d'accrocher le portrait du président. Enfin, excusez-moi, il a décompensé. Il faut qu'il revienne sur terre. Vous savez, je crois que c'est l'article premier de la Constitution de la France, la République une et indivisible. Une et indivisible. Il n'y a pas Saint-Denis qui peut faire ce qu'il veut.
Alors, Bali Bakayoko, qui retire le portrait de Emmanuel Macron, est-ce que ça vous choque, Pierre Rondeau ?
Ça ne me choque absolument pas. Là, il n'y a aucune loi qui impose à ce qu'on affiche le portrait du président. C'est un usage républicain. C'est un maire qui, évidemment et clairement, est en opposition politique avec Emmanuel Macron et le président Macron. Voilà, c'est un acte politique de la part d'un maire élu démocratiquement. Il a été élu en opposition avec la Macronie et le gouvernement. Il fait acte d'opposition. Et il retire le... Alors, où je vous dirais que c'est extrêmement désuet. Hein. C'est extrêmement petit
c'est
et mesquin.
C'est coutume désuète.
C'est petit et mesquin de le retirer.
Ah oui. Mais vous trouvez ça normal qu'en 2026, on continue d'afficher
le portrait
président?
Je trouve ça pas normal qu'il y ait un débat.
Ah bon.
La vérité, c'est juste simplement, il le retire. C'est un élu LFI qui est clairement en opposition avec Emmanuel Macron. Il le retire, il fait ce qu'il veut, il a été élu démocratiquement. Il a été élu démocratiquement. Si les habitants de Saint-Denis l'acceptent, bah voilà, c'est le maire, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'obligation juridique, législative ou autre. Il n'y a aucune obligation, hormis un usage républicain, d'afficher le portrait du président. Il fait ce qu'il veut, il est dans l'opposition.
Et justement, Daniel Riolo, est-ce qu'on doit effectivement obliger les maires à afficher le portrait du président de la République? Enfin, ils font bien ce qu'ils veulent, non?
Je suis en total désaccord avec ce que vient de dire Pierre Rondeau et ce que tu dis toi également. L'usage républicain, c'est très important.
D'accord.
La tradition républicaine, c'est très important, de mon point de vue, évidemment. Si vous voulez ne pas être d'accord, vous avez le droit. Et si je suis élu et que je ne suis pas d'accord avec le président de la République, je ne suis pas de son parti ou je suis en opposition avec lui, je trouve que c'est encore mieux de le mettre, ça veut dire que je respecte la République et la démocratie que d'afficher son portrait parce que je respecte celui qui a été élu par le peuple français au suffrage universel. La preuve, et je pense que ça a une portée symbolique qui est très forte, de mon point de vue encore une fois, ça n'engage que moi, je pense que le maire qui fait ça ne respecte pas la démocratie et ça en dit long sur ce que ferait ce parti s'il était à la tête de l'État. Je pense qu'il combattrait les opposants. Je pense qu'il combattrait les opposants. Je pense que c'est une pratique d'enlever le portrait de celui qui a été élu au suffrage universel par le peuple français. Je pense que c'est la preuve qu'on est prêt à ne pas respecter la démocratie si on n'est pas d'accord avec
lui. Mais il n'est pas obligé de le faire.
Donc,
il n'est pas hors la loi.
Estelle, je pense que je ne suis pas complètement débile. J'ai compris. Je te parle de tradition républicaine.
Mais toi, tu trouves ça important, en fait.
La tradition républicaine, c'est très important.
D'accord.
Voilà, c'est dans les pays anglo-saxons, on appelle ça la common law.
Hein?
Évidemment, ça n'est pas la tradition française, mais la tradition républicaine, c'est très important de respecter ceux qui sont élus. Et je pense que le geste, classe ou élégant, on s'en fout, qui envoie un message de respect de la démocratie, c'est justement.
C'est pas porter atteinte à la démocratie que de retirer le portrait.
Moi, je pense que ça en dit long sur la façon dont tu vois la démocratie.
Oui, ça c'est sûr.
Et je pense que les LFistes, la façon dont ils la voient, la démocratie, c'est pas la même que la
nôtre.
Alors
là, c'est juste Bali Bagayoko.
C'est justement de combattre, et pas uniquement par la démocratie et par le vote, ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Et moi, je pense que le futur président n'est pas de leur bord, eux considèrent qu'aller même dans la rue, casser et se battre, se rebeller, c'est que, puisqu'ils sont, pour la plupart, ils ont en eux un côté révolution permanente, trotskiste.
C'est pas le NPA.
Oui, puis t'es pas obligé de casser. Tu peux vouloir faire la révolution sans casser.
Oui, non, mais sur
Charles Mayol, non, ça c'est pas pensant. Non, mais ça alimente. Ça, c'est pas pareil.
En fait, ça alimente un discours qu'on entend parfois, mais sur d'autres sujets. Je pense qu'on a pu l'entendre aussi au moment des gilets jaunes, du Covid, etc. Le côté, c'est pas mon président.
Et ça,
en fait, le fait de mettre le portrait d'Emmanuel Macron dans toutes les mairies, c'est pas pour dire toute la France doit penser comme Emmanuel Macron. C'est dire c'est le président de tous les Français, peu importe les partis, les opinions, etc.
Et respectons le fait qu'il ait été élu par la France.
Là, c'est un peu mesquin de dire voilà.
Juliette Briens.
Ouais, moi je vous cache pas que honnêtement, j'ai d'autres chats à fouetter, d'autres combats à mener que les coups de buzz de Balai Bagayoko. Et j'ajouterais que pour moi, un homme dont l'ambition est de désarmer la police, je n'attends rien de lui, quoi. Et j'attends encore moins de lui qu'il respecte les usages républicains. Voilà, ça n'a aucune importance sur l'échelle de ce qui attend les habitants de Seine-Saint-Denis. Je pense que c'est vraiment pas très grave. Voilà, d'accord. C'est pas très grave. En tant qu'élu, je l'aurais jamais fait. Moi aussi, j'aime les traditions. On puisse les trouver désuètes ou pas, c'est symbolique évidemment d'avoir le portrait du président. Mais franchement,
Si demain Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, je pense qu'il sera ravi que son portrait soit affiché. Enfin, voilà,
c'est possible.
Il serait pas contre. On respecte l'usage républicain.
Mais on pourra poser la question aux élus RN de savoir s'ils afficheraient ou non le portrait de Jean-Luc Mélenchon.
Et tu crois que si jamais ils ne le faisaient pas, je penserais différemment?
Ah mais je ne l'ai jamais accusé. Hein.
Le suffrage universel, c'est quelque chose qui doit être respecté dans notre démocratie, dans notre République.
Les GG ce matin sur RMC, une nouvelle grève à la SNCF. En avez-vous assez? Vous savez, ça faisait longtemps que la SNCF n'avait pas été en grève. Ça nous manquait presque. Ouais. Sudrail, l'UNSA. Ça fait au moins 2 ans là.
Bon.
Ben, je te jure, si, parce que maintenant ils sont remplacés quand ils font grève, donc évidemment ça a moins d'impact. Sudrail, l'UNSA, la CGT, la CFDT ont annoncé une grève commune le mercredi 10 juin. Ils dénoncent la multiplication des drames au sein de l'entreprise et exigent des négociations commerciales. Et pour Bruno Poncet, le cheminot des GG, cette grève est légitime.
Ah, évidemment.
On a 14 suicides depuis le début de l'année, et dont quelques-uns très marquants qui se sont mis sous étreint avec des rapports factuel avec le travail, donc il y a un vrai sujet. Et puis, juste pour faire simple, parce qu'on va pas passer 3 heures là-dessus, parce que je sais que ça va vous saouler, mais en fait, je vous rappelle qu'en 2018, on a fait une réforme ferroviaire, Édouard Philippe, donc c'est pour ça qu'Édouard Philippe, réforme ferroviaire qui indiquait que les cheminots qui allaient dans des boîtes privées qui sont créées depuis cette loi ferroviaire garderaient la même chose qu'avant, les mêmes conditions de travail, le même salaire. Aujourd'hui, on arrive à l'époque où ces boîtes commencent à fonctionner et on nous fait le contraire. On est en train de nous casser nos conditions de travail. Donc les gens vont pas se laisser faire. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cet appel à la grève.
Est-ce que vous en avez assez des grèves à la SNCF, Pierre Rondeau? Est-ce que vous dites une petite grève de temps en temps parce que les autres n'ont pas marché?
Je veux dire,
c'est la France. Quoi.
On dit tout à l'heure, il faut respecter les traditions républicaines.
Ouais.
Moi, je respecte les traditions françaises. La France est connue pour ses grèves. Et ben voilà.
Première grève de l'ère Castex.
Ouais, président de la SNCF. Mais il me semble-t-il, défaut de dire une bêtise, la grève des cheminots, mais donc la dernière c'était il y a 2 ans, mais on n'a pas eu entre-temps une grève des contrôleurs.
Oui, mais elle a été très peu suivie parce qu'en fait aujourd'hui les cadres de la SNCF peuvent remplacer les.
Il y a les cheminots, il y a des contrôleurs, enfin bref.
Ils peuvent pas remplacer un conducteur de train.
Et là en l'occurrence, et on pourrait aussi se poser la question si à grève, est-ce qu'on la verra si les cadres dorénavant prennent la place des cheminots. Mais globalement, au-delà de ça, ce qui est sûr, c'est que c'est un droit républicain, constitutionnel. On a le droit de faire grève, on a le droit de défendre ses acquis. Je vais pas chercher à critiquer ces grévistes. Je vais pas sortir le discours, ils nous prennent en otage. C'est un droit et je le respecte. Quoi qu'il arrive, même si je suis directement touché.
Ça vous fait sourire, même si les revendications ne prêtent pas à sourire de la SNCF. Juliette Briens,
les revendications, c'est qu'ils nous inventent toujours quelque chose. Alors ils dénoncent les drames, c'est ça, l'augmentation des drames, et exigent des négociations commerciales.
Salariales.
Ouais. Oui, c'est toujours en fait finalement trouver des excuses bidons à la grève pour au final, c'est un peu comme le sketch des Inconnus, c'est revalorisation des salaires et plus d'argent à la fin du mois. Et en fait finalement,
c'est dommageable de demander une valorisation.
Non, mais ça n'a rien à voir avec la demande initiale. Mais tu comprends, on a l'impression qu'ils se foutent de ta gueule.
Ils disent il y a des drames parce que finalement.
Mais dis que tu veux de la thune, arrête de dire que c'est parce qu'il y a des drames.
Non, ils disent qu'il y a eu plusieurs accidents du travail, des arrêts maladie, des suicides, des réorganisations internes qui préjudiciables à la santé des agents. Voilà ce que disent les syndicats qui s'inquiètent donc pour la santé des cheminots et qui veulent également des négociations salariales, plus d'argent.
Si t'es très bien payé,
après, tu. La santé des cheminots, c'est pour quoi? Pour le charbon?
Tu seras peut-être moins en arrêt maladie, tu vois. Il y a des choses. Si t'es heureux heureux dans ton travail et que t'es bien payé.
C'est parce que le gars qui met sa charbon dans la locomotive,
il n'y a plus ce genre de gens.
Tout le monde veut voir son salaire augmenter.
Il y a plus le charbon dans la locomotive.
Daniel.
Tout le monde veut voir son salaire augmenter et tout le monde n'a pas le loisir de se mettre en grève et de bloquer la France pour y parvenir.
Alors, bloquer la France, calmons-nous.
On va préciser qu'on en est au stade du. On en est au stade du préavis de grève. C'est que dans un peu plus d'un mois. Donc ça laisse le temps en théorie.
Castex va lâcher. Ça ira bien.
On appelle ça négocier. Dans le jargon de Daniel, c'est lâcher. Mais oui, en théorie, ils peuvent s'asseoir autour d'une table et trouver un terrain d'entente.
Oui, ça peut arriver, Daniel. C'est dans toutes les entreprises.
Et moi, la SNCF, je n'attends rien de la SNCF. Je ne prends plus le train. Ça coûte. Mais c'est terrible à quel point ça coûte cher.
Pas toujours.
Ça coûte très cher. Et dans les wagons, ça sent le pipi.
Ça sent
le pipi
dans les wagons.
Et ça cartonne. Là, c'était des chiffres RMC révélés hier. La fréquentation des trains, alors les trains du quotidien, les TER, etc., explosent depuis deux mois face à la crise du carburant. De plus en plus de Français prennent le train tous les jours pour aller au travail.
Et il y a plein de contrôleurs qui nous écoutent, qui écoutent RMC. Et c'est quand même un plaisir à chaque fois de discuter comme ça.
C'est pas à cause d'eux que ça sent le pipi.
Mais ça ne sent pas le pipi.
J'ai pas dit que c'était à cause d'eux.
C'est arrivé une seule fois et tu crois que maintenant ça arrive dans tous les wagons.
Non.
Il y a certains trains qui sont en retard.
À chaque fois, je prends le train. D'ailleurs, lundi, je dois reprendre le train pour la tournée d'un
heure. Vous préparez mentalement.
Je sais déjà. D'ailleurs,
où, lundi
d'ailleurs, très marrant, c'est la panique. D'ailleurs, c'est la panique. Tout le monde dit, il faut partir plus tôt et tout parce que cette ligne est toujours en retard.
J'ai bien
fait. Mais pourquoi c'est toujours en retard? Normalement, c'est une exception.
C'est quelle ligne que vous prenez quoi?
Nous allons à Valence, dans la Drôme.
Ouf.
C'est une ligne en retard, il paraît. Moi, je ne suis pas expert en SNCF.
C'est sympa de savoir que la ligne de Paris-Valence, c'est son pipi. Donc.
N'importe quoi. Bon, taisez-vous.
Ah non, c'est la première fois que je vais à Valence.
Les GG ce matin sur RMC. Édouard Philippe a-t-il déjà perdu la présidentielle, selon un baromètre? Le maire du Havre baisse de 5 points dans un sondage sur les compétences pour être un bon président. Édouard Philippe repasse même derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella. Le soufflet est retombé pour Valérie, auditrice des GG.
Mais là, je rends mon tablier, je vais pleurer, je sais plus quoi faire. Non, mais franchement, Édouard Philippe, le centre droit mou, il n'a ni charisme, les idées. Bon, j'attends de voir soi-disant son programme, enfin, on les connaît déjà. Il a été Premier ministre, qu'a-t-il fait? Je voudrais quand même avoir un bilan de ce qu'il a fait. Hein. Moi, je trouve qu'il manque de peps, il ne donne pas envie.
Alors, le soufflet est retombé pour Valérie, auditrice des GG. Bon, il n'y a jamais eu non plus, il n'est jamais vraiment très monté très haut.
Il y a vraiment eu un soufflet, quoi. Est-ce qu'il est monté à un moment? Mais attention sur les sondages.
Il est parti un peu trop tôt.
Oui, alors. En 2022, un an avant la présidentielle 2022, dans les sondages, on avait Jean-Luc Mélenchon à 7%, la candidate ou le candidat avant les primaires de la gauche du PS à 18%, on avait un autre candidat à 13%, et au final, ça donnait Jean-Luc Mélenchon à 22%. Donc, je suis toujours très sceptique et très dubitatif sur les sondages un an avant une élection présidentielle. Il va y avoir une campagne. Édouard Philippe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Il n'incarne pas forcément un
souffle. Oui, mais on est à un an de la présidentielle. Oui. Et peut-être qu'il va tenir campagne pendant un an.
Tu l'imagines tout d'un coup susciter un espoir fou.
Je vous rappelle
un an avant, te soumettra, tu diras ça.
Un an avant, Jean-Luc Mélenchon était à 8% dans les sondages. Il termine à 22%. Il y a la campagne. Et la campagne, Édouard Philippe peut très bien la tenir et peut très bien percer et découvrir une âme charismatique qui fasse rêver les Français. Et finir président. Le deuxième élément qui n'est pas anodin, c'est que c'est le seul candidat à l'heure actuelle capable de battre Jordan Bardella au second tour.
Voilà.
C'est vrai. Bon, c'est on ça. Est un peu plus dans
la réalité, c'est ce que vient de dire Pierre. C'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je te disais, tu peux prendre n'importe quel candidat, tu auras la même conclusion au sujet du charisme ou de l'idée qu'il puisse être président. La seule certitude qu'on a.
On peut pas enlever Jean-Luc Mélenchon à du charisme, par exemple.
La certitude qu'on a, c'est le candidat RN qui sera, je vais prendre une fourchette très large, entre 25 et 35.
Oui. Donc, plutôt 35, mais oui.
25 et 35, donc qualifié pour le second tour. Voilà. Et derrière, tous sont convaincus que ça peut se jouer entre 14 et 16. Donc là, ça va être la bagarre pour être entre 14 et 16. Et de ce candidat-là qui aura 14 et 16 et qualifié pour le deuxième tour, si c'est Édouard Philippe, il y a de grandes chances qu'il gagne au final.
Mais c'est pas la question.
Et si
en fait,
c'est le gars de LFI, donc Mélenchon.
Là, tu nous fais une étude politique.
Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir en fait?
La guerre en fond, des portes ouvertes, excuse-moi de te le dire.
Et donc
là, on est en train de parler.
Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte en fait?
Derrière la porte, en fait, la question qu'on se pose. Moi, je suis désolée. Jean-Luc Mélenchon, je comprends qu'il puisse puisse susciter un espoir parmi ses électeurs. Il a du charisme, on peut dire ce qu'on veut. Édouard Philippe, est-ce qu'aujourd'hui...
Les repoussoirs pour plus de 80% des gens.
C'est pas ce que je te dis. Est-ce qu'aujourd'hui, Édouard Philippe, il peut susciter un espoir, un engouement? Est-ce qu'il peut... Le charisme, ça se trouve pas comme ça au coin de la rue.
Personne, non.
Tu l'as ou tu l'as pas.
Ce qui est inquiétant... Peux-tu me citer un candidat, d'après toi, qui en a?
Là, pour l'instant, j'en ai pas comme ça. Mais pour le coup... tu peux te dire que tu vois pas trop Édouard Philippe, même si voilà, il y a certainement plein d'intérêts.
La raison, c'est que s'il y avait un candidat, en effet, qui avait un vrai charisme, un vrai élan, on se poserait pas la question.
Exactement.
Un an avant, on serait pas en train de chercher.
Exactement.
Et tout le monde n'y croirait pas. Là, chaque politique, de Marine Tondelier à Bruno Retailleau, est persuadé qu'il est légitime pour être le candidat au second tour, parce que comme le disait Daniel, ça va se jouer à 15-16%
pour être
qualifié. Et donc
vous dites la même chose que moi, qu'il n'y en a pas un.
Mais si Édouard Philippe avait du charisme, le match serait déjà plié. Il serait à 25 dans les sondages.
Est-ce que quelqu'un d'autre en a? Tu vas avoir François Hollande, le comeback. Tu vas avoir Mélenchon. Tu vas avoir Le Pen ou Bardella. Et vous allez tous me dire, alors si c'est Bardella, il est trop jeune. Si c'est l'autre, il n'a pas de charisme.
C'est pas ça. C'est pas ça.
Mais vous dites, à l'époque, par semaine, on disait il va plier le match après les municipales. On disait c'est bon, il a un élan, c'est le maire du Havre. C'est parti jusqu'à la présidentielle.
C'est très inquiétant.
À l'époque, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, ils avaient tous les deux du charisme. Que tu votes pour eux ou pas, ils avaient du charisme. Hein? Mais
c'est
parce que tu le vois, ils avaient tous les deux du charisme.
Ségolène Royal, pour moi, n'en avait pas parlé.
Et ils incarnaient quelque chose. Le charisme, c'est pas le programme politique, c'est ce qu'il dégage aujourd'hui. Édouard Philippe, il dégage pas une passion,
incroyable. Forcément, pour être président, il faut avoir ça?
Je sais pas.
Parce que le problème, c'est qu'après, pour Sarkozy, on a dit qu'il y a eu du charisme, et derrière, c'était une cata. Donc, pardon, mais le charisme, qu'est-ce qu'on en a à cirer, en fait?
Juliette Briens. Ce qui est quand même inquiétant pour lui, je pense, c'est que pour l'instant, il était sur la stratégie d'être muet, et normalement, la stratégie d'être muet, elle paye. C'est-à-dire que t'es jamais autant apprécié que quand tu ne dis rien. Mmh. Et donc là, c'est ce qu'il poursuit, c'est-à-dire qu'il ne dit rien, et il s'effondre dans les sondages. Alors, pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour lui, je pense que ça va être une vraie question, et ça va peut-être être le moment justement de reprendre la parole et d'incarner quelque chose. Parce que pour l'instant, il n'incarne rien. Donc, qu'est-ce qu'il va incarner? Peut-être une politique bien plus à droite que prévu. Peut-être, on verra quoi. Mais il est temps, en tout cas, qu'on ait un programme.
Il n'a pas encore dit, effectivement.
Une ligne.